Bon vendredi matin, tout le monde. J'espère que ça se passe bien pour vous. En entrevue sans filtre à 11h30 tout à l'heure, je vais recevoir le comédien, metteur en scène, conférencier Patrice Cocreau. Vous savez que Patrice a souffert d'anxiété sévère et je voulais lui reparler aujourd'hui parce que l'anxiété est revenue encore au premier plan de l'actualité cette semaine. On parlait des jeunes là qui, 2 sur 3, ont une anxiété de performance. Puis je pense qu'à regarder leurs parents qui, eux aussi, hein, nous aussi, parfois, on a des problèmes d'anxiété, d'angoisse, toutes sortes de choses qui sont reliées à des problèmes de santé mentale. La santé mentale aussi, dont on a beaucoup parlé à cause de l'élargissement de la loi sur l'aide médicale à mourir. Bref, Patrice va nous parler de tout ça et bien sûr, de façon plus lumineuse, de son œuvre, parce qu'il jouera bientôt au théâtre un grand classique de Molière. Donc, c'est tout à l'heure en entrevue sans filtre. Je vais vous demander si vous pensez qu'on va finir par trouver une solution à la crise du recyclage. Et je vais recevoir l'éco-sociologue que vous aimez beaucoup, Laure Varidel, avec l'explorateur Bernard Voyer. Mais en première heure d'émission, on va parler de ces faits divers qui retiennent notre attention puis qui nous fâchent. D'abord, il y a eu cette histoire, cet homme qui a été mis en libération conditionnelle. Bref, on l'a relâché pour qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec des femmes alors qu'il avait été trouvé coupable et condamné pour le meurtre de son ex-conjointe à l'époque. Un meurtre assez sauvage. Demandez-moi pas pourquoi ce gars-là a été relâché il n'a même pas fait toute sa peine. Il avait été condamné à purger 15 ans. Il est sorti au bout de 12. On ne sait pas pourquoi. C'est d'ailleurs la question qu'on va se poser. Puis je peux vous dire qu'il y en a un qui est vraiment frustré. Ben, c'est Pierre-Hugues Boisvenu, parce que c'est l'histoire de sa fille qui le revit. Parce que cet homme-là, qui a été donc trouvé coupable, a tué une autre. Il a été accusé formellement d'avoir tué une autre jeune femme ces jours-ci à Québec. Alors on va parler de ça à 10h30. Mais je veux revenir, bien sûr, sur les travaux de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Vous avez peut-être suivi ça. Moi, je suis ces travaux-là avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai deux adolescentes. Puis même si on n'a pas de jeunes filles dans notre entourage, on vit dans une société, on vit en communauté, que des jeunes femmes, que des jeunes mineurs se fassent exploiter parce que des hommes veulent profiter de leur naïveté, de leur fragilité. Moi, ça me perturbe profondément, puis je me dis, toujours le vieux débat, comment ça se fait qu'il y a de l'exploitation sexuelle de personnes mineures? Ben sans doute, c'est parce que s'il y a cette offre-là, c'est qu'il y a une demande. Et c'est tout le problème. Alors, cette commission spéciale était à Montréal cette semaine, était à Val-d'Or également. Vous savez qu'il y a un grand problème avec les jeunes femmes autochtones. Il paraît qu'il y a des gars qui demandent spécifiquement d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes autochtones parce qu'on peut leur faire faire à peu près n'importe quoi. T'as vire d'un bord, t'as vire de l'autre. Elle s'en fout, ça ne dérange pas. C'est ça que certains hommes ont en tête. Et savez-vous quoi le plus écœurant? Il y en a qui disent, tu peux-tu me l'habiller en Pocahontas? Non, mais sincèrement, moi, ça me dépasse. Il y a un témoignage qui a beaucoup touché les commissaires de cette commission spéciale cette semaine. C'est le témoignage du père d'une jeune femme, Kim, qui est décédée en 2018, justement à cause de l'exploitation sexuelle dont elle était victime, également la drogue là-dedans. Richard Desjardins, le père de Kim, ironiquement, travaille dans un organisme à Longueuil, l'organisme quelque part, qui aide justement des jeunes filles des jeunes qui sont aux prises avec des problèmes. Et les commissaires ont été très touchés par le témoignage de Richard Desjardins qui semblait dire qu'il n'avait pas été capable d'empêcher la mort de sa fille. Évidemment, on n'a pas su ce que M. Desjardins a raconté aux commissaires pour les toucher à ce point-là. Il paraît qu'il y en a qui avaient la larme à l'œil tellement c'était incroyable ce que ce père a vécu. Et je pense que ce genre de témoignage va beaucoup influencer les recommandations de cette commission. Je voulais parler à M. Desjardins. Il a accepté d'être avec nous ce matin. Richard, merci beaucoup d'être là. Je vous remercie parce que c'est important qu'on vous entende là-dessus. Je sais que c'est très douloureux pour vous de revenir là-dessus. C'est encore relativement frais.
Ça fait partie de la thérapie.
Oui, vous êtes en thérapie pour ça.
Ben non, je l'ai fait avec en témoignant avec vous aujourd'hui. Je l'ai fait aussi avec à continuer à persévérer avec nos jeunes, puis toujours garder espoir.
Parce que je disais que vous êtes un intervenant, vous êtes éducateur spécialisé. Ouais. Vous travaillez dans le domaine depuis plus de 30 ans. Mm-hmm. Vous travaillez justement dans un organisme à Longueuil qui fait de la sensibilisation pour les jeunes. comment vous vous êtes rendu compte que votre propre fille, Kim, vous avez quatre filles.
Oui.
Kim était votre plus jeune fille.
Oui.
Vous m'avez dit tout à l'heure la plus sensible.
Oui.
Comment vous vous êtes rendu compte que Kim commençait à avoir des problèmes?
Ben, par son comportement, par ses absences au cégep, par ses absences à l'école secondaire aussi, par ses mauvaises fréquentations. Puis là, vu que j'avais déjà des outils de travail qui étaient plus faciles pour moi de détecter. Puis Kim, c'était une fille très, très fragile. Elle avait pas beaucoup d'estime pour elle. Et puis, c'était une victime potentielle, tu sais.
Puis là, elle avait les critères de la jeune fille qui pouvait être intéressante pour des gangs de rue, mettons.
Oui.
Ouais. Quand vous dites fréquentation douteuse, est-ce que c'était justement des proxénètes potentiels, des gangs de rue?
Pas nécessairement avec les gangs de rue. C'était des gars qui étaient proxénètes, puis en même temps, eux, pour faire doublement plus d'argent, ils vendaient, puis ils exploitaient.
Ils vendaient?
De l'héroïne, ils vendaient de la cocaïne.
Ah, de la drogue.
Oui, okay. C'est ça. Fait que pour les accrocher, pour les amener à, par la suite, à profiter d'elles au niveau de l'exploitation sexuelle.
Fait que Kim, dans le fond, l'enfer a commencé avec la drogue.
Oui, une partie.
Racontez-moi un peu. Parlez-moi de votre fille. Vous dites qu'elle était un peu fragile. Pourtant, c'était une première de classe.
Oui.
Est-ce qu'elle était du genre rebelle? Tu sais, des fois, on s'imagine ado rebelle, a fait exprès de se tenir avec des mauvaises personnes pour elle, juste pour écœurer un peu les parents. Il y a ça aussi. Bon, ça fait partie de l'âge, mais ça passe. Dans le cas de Kim, c'était pas ça.
Pas du tout. Tu sais, c'était une jeune femme qui, une des premières qui était sur l'équipe de football à l'école secondaire, au cégep. Elle était studieuse, était vraiment impliquée.
Avait des bonnes notes.
Avait des très bonnes notes. Il faut s'enlever dans la tête aussi que c'est juste des jeunes qui ont des problèmes qui se font râper par le milieu. C'est pas ça. Nous, on était très près. Là, on l'encadrait beaucoup. Puis,
ses sœurs aussi, j'imagine.
Absolument. Puis tout le monde, la famille, l'ont supporté beaucoup, beaucoup dans toutes les démarches à l'entreprise. Puis on l'encourageait beaucoup. Puis la dernière année, elle faisait énormément d'efforts pour s'en sortir.
Mais elle, c'est la drogue qui l'a pas aidée, finalement?
C'est ça qui l'a fini, là.
Ouais. On s'entend. Racontez-moi un peu le parcours de Kim. Donc, à 17 ans, elle rencontre des mauvaises personnes. Oui. Elle se tient avec ce monde-là.
Oui.
Ils prennent de la dope.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe après, là?
Là, bien, dû à sa très grande consommation, c'est là qu'il embarque les dettes de dope aussi. Que là, c'est la consommation, mais c'est aussi l'exploitation sexuelle. Comment on peut faire pour être capable de subvenir à sa dépendance?
Qu'est-ce qu'elle prenait comme drogue?
Héroïne.
Ah, de l'héroïne?
Oui.
Elle se piquait?
Oui.
Et ça, vous l'avez découvert quand?
Deux ans après sa première consommation.
Donc, elle devait avoir?
Elle avait 19-20 ans.
Avant ça, vous ne saviez pas que votre fille se piquait?
Non. Non. Après un accident d'auto, c'est bizarre. Elle a eu un accident d'auto, puis on a trouvé du stock dans la voiture. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des soupçons sur sa consommation.
Est-ce qu'à ce moment-là, elle se prostituait déjà?
Pense pas. Non.
Quand vous l'avez appris, là, elle faisait des clients, c'est ça?
Mais c'est parce qu'au début, c'est une travaillante. Mm. Elle travaillait dans les restos, elle travaillait dans les bars, c'était quelqu'un. Puis là, elle a commencé à travailler dans les pharmacies. Fait qu'elle avait quand même une accessibilité facile à différents médicaments.
Mm.
Puis là, ben ça, c'est... sa consommation, elle a augmenté, puis ça n'a pas fini. Ça finit... on s'est retrouvés à puncher tout le temps, Kim. Hein? C'était une jeune femme, là, elle nous donnait toujours, toujours des nouvelles à sa mère tous les jours. Elle me racontait ce qui se passait. Elle n'avait rien à cacher.
Elle n'habitait plus avec vous, là, ce que je
comprends? Non. Puis nous, on avait mis un cadre assez serré à la maison. Puis on y avait trouvé des ressources nécessaires pour l'aider. Mais les ressources à Montréal, puis ça arrive sud, au niveau d'hébergement pour l'exploitation sexuelle ou pour la consommation, il n'y a pas un tout. avoir une seule ressource avec l'aide nécessaire pour ce type de jeune femme-là, de consommatrice-là, il n'y en a pas à Montréal. Mm. Il y a En Marge, 12-17 ans, mais 12-17.
Mm-hmm. Dès que tu as 17, rendu, ah ouais, c'est, ouais.
T'es rendu à 18-19-20 ans.
Je disais tout à l'heure que votre... Et donc, vous l'avez retrouvé, Kim?
Oui.
Comment vous avez su qu'elle était morte?
En fait, on n'avait pas de nouvelles le mercredi. Puis moi puis Nathalie, mon épouse, on s'est dit, hey, pas de nouvelles. Le jeudi, pas de nouvelles encore. Là, on commençait à... Demain matin, si on n'a pas de nouvelles, on va au poste de police de quartier. Fait qu'on est allé au poste de police de quartier. Puis c'est là qu'on a fait... La policière a tapé son nom dans l'ordinateur, puis son nom il a sorti. Elle était à l'hôpital, aux soins intensifs, au Royal Vic. Puis était dans une coma. Elle a passé 3 semaines dans le coma, puis est décédée par la suite.
D'une overdose.
Oui. Ouais.
Et vous savez où est-ce qu'on l'a retrouvée?
Oui. Chez son pimp. Chez son dealer de dope. À Ville-Mont-Royal.
À Ville-Mont-Royal.
Oui. Puis, eux autres, se sont, tout ce réseau-là se sont fait arrêter. Ils sont en prison aujourd'hui. On est très contents. Le procès va avoir lieu dans les prochains mois.
Oh, ils vont sortir dans combien de temps?
C'est toujours le problème.
Un gars qui a tué sa femme. Là. On va en parler à 10h30, mais...
Ouais.
C'est un autre problème, de ça. Là. Ouais.
Mais l'avantage à Montréal, au niveau des équipes de police, ils ont intervenu rapidement. Puis moi, j'aimerais remercier 2 personnes aussi. Mm-hmm. Martin Valiquette, anti-gang de Longueuil, qui nous a supportés énormément dans nos démarches, puis dans l'aide psychologique là, de vivre une situation comme celle-là. Puis Diane Veillette, qui a aidé beaucoup, beaucoup Kim dans sa démarche. De se reprendre en main. Madame Veillette, c'est une enquêteur de la police de Montréal que elle a participé le projet Les Survivantes. Mm-hmm. Puis moi, dans mon conseil d'administration, j'ai une survivante.
À quelque part, là, à Longueuil.
Ouais.
Là, ouais.
Puis écoute, c'est ça qui est assez particulier parce que les mêmes individus se retrouvent souvent, tu sais, le réseau, là, Longueuil-Montréal. Là. Puis juste vous donner un exemple. Là. Nous, on a une intervenante à l'école, pour 12 écoles secondaires, pour prévenir le phénomène de l'exploitation sexuelle.
Une personne pour traiter des centaines, pour dire des milliers de jeunes, finalement.
Ben oui, des milliers de jeunes.
Ouais.
Okay. Puis tous les partenaires alentour de la table, ils font de leur mieux, de leur possible.
Il n'y a même pas assez de monde.
Il n'y a pas assez de monde, puis pas assez d'argent non plus. On fait ce qu'on peut, mais là, une personne. Nous, on est mandaté par la sécurité publique pour le projet pour Sampigneux. En exploitation sexuelle dans les écoles. Une personne pour toute l'agglomération de Longueuil au complet. C'est complètement ridicule. Il nous donne un montant d'argent, il nous donne 30 000 par année.
Ouais.
Ça ne paye même pas un salaire. Il faut aller à droite et à gauche. Puis ce que je trouve de beau dans ce temps-ci, que ce soit la police qui trouve du financement pour quelque part et d'autres partenaires qui travaillent aussi dans l'exploitation sexuelle, comme on a une nouvelle maison d'hébergement qui s'appelle le 2159 à Longueuil. Ils ont 3 places disponibles pour les jeunes filles en exploitation sexuelle.
Mais vous me dites,
c'est tout nouveau.
Mais il y en a combien de jeunes filles exploitées juste à Longueuil?
100. 100 qu'on connaît, qui ont en bas de 18 ans, là, des mineurs. On ne parle pas de majeurs, là. On parle 100 jeunes filles qui ont été identifiées par la police, les centres jeunesse, qui sont dans le réseau. C'est tous les mêmes gars, hein? Moi, ça fait 29 ans que je suis à la maison quelque part, là, comme éducateur, mais comme directeur général. C'est tous les mêmes qui abusent. C'est des gars qui sont rendus à 45, 25, puis les petits frères qui prennent la relève des grands frères.
Pourquoi on ne les pogne pas, ces gars-là, si on sait qui ils sont? Puis qu'on les rentre en dedans pour de bon, ou je sais pas, moi, il doit y avoir... Parce que sinon, c'est un cercle vicieux. Ça a causé la mort de votre fille, mais ça peut causer la mort de d'autres filles. Puis c'est un cercle, ça arrêtera jamais de tourner, là.
Mais c'est sûr qu'il faut des plaintes, hein?
Ouais.
Puis il faut créer des liens de confiance avec nos jeunes filles. Puis c'est pour ça qu'on est dans les écoles, puis c'est pour ça qu'on a des programmes aussi, dont Entre deux mondes, les nouveaux arrivants.
Ouais.
Les jeunes qui arrivent, là, il faut s'en occuper.
Richard Desjardins, vous restez avec nous, bien sûr. Vous êtes le père de Kim, qui est décédé dans l'enfer de l'exploitation sexuelle et de la drogue l'année dernière. mon invité a témoigné à la commission public. Il y a eu des audiences qui se poursuivent d'ailleurs sur l'exploitation sexuelle des mineurs. On a d'ailleurs jusqu'à la fin mars là, pour, si ça vous intéresse, de déposer un mémoire. La commission va entendre tout le monde. L'idée, c'est vraiment qu'on regarde comment gérer cette situation-là. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension aussi humaine. Comment est-ce qu'on peut trouver des façons pertinentes pour lutter contre ce phénomène dont on parle depuis tellement longtemps qu'on commence à se dire, voyons, c'est quelqu'un qui va se tanner puis vraiment mettre la hache dans ce dossier-là puis régler le problème une fois pour toutes. On revient tout de suite avec M. Desjardins. Il va nous dire ce qu'il a dit à la commission pour avoir à ce point touché les commissaires. On a déjà eu un peu de son témoignage. C'est assez. Merci beaucoup d'être là, vraiment, Richard.
À tout de suite. Merci.
Richard Desjardins, le père de Kim, qui est décédé à cause de l'exploitation sexuelle dont elle était victime après avoir, comme on dit dans le milieu, assez monté un bill de drogue et elle a dû rembourser et c'est la façon typique. Comment tu rembourses? Ben, tu es obligé de faire ce que tu voulais pas faire, c'est-à-dire vendre ton corps, te prostituer. En continuant de se droguer, Kim a été retrouvée chez son pimp qui habitait dans une maison cossue. C'est difficile comme parent, Richard Desjardins, vous êtes le père de Kim. Merci d'accepter de parler ce matin. Vous êtes allé raconter votre témoignage à la commission qui essaye de faire la lumière un peu sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Vous avez touché beaucoup les commissaires. Qu'est-ce qui les a le plus touché, vous diriez, dans votre témoignage? Parce que ça les a vraiment ébranlés, là.
Bien, je pense que c'est de m'ouvrir, d'en parler. Faut en parler.
Il y a très peu de gens qui en parlent.
Très peu. Ouais. Puis ça prend du temps avant d'être capable d'en parler.
Ben, c'est souffrant. C'est très souffrant.
Puis tu veux pas blesser tout le monde non plus dans ton entourage. C'est la mère, les enfants, la famille. Parce que pendant 7 ans, la peur, tu sais, la peur de perdre Kim, la peur d'avoir le pusher qui cogne à ta porte, la peur de tout, là, tu sais. Moi, j'ai été victime en 2000 d'une tentative de meurtre contre moi. Je sais pas si vous le savez, là, mais mettons que quand t'as 3 qui arrivent chez vous par la porte arrière, c'est pas pour te serrer la main, là. C'est sûr que quand tu dénonces des activités de ces criminels-là, mais t'es plus à risque. Mais jamais je vais me taire. Toujours, je vais aider ces jeunes femmes-là qui ont besoin d'aide. On fait de l'intervention dans les écoles, on fait de l'intervention à l'intérieur le soir, on est ouvert 12 heures par jour pour
la maison quelque part de Longueuil.
À la maison quelque part.
Mais à cette commission, aux audiences cette semaine... Ouais. Les commissaires ont dit, vous ont remercié, comme on le fait ce matin, de témoigner, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de parents parler de ça, puis parler aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Vous êtes un travailleur, un intervenant social, vous êtes là-dedans, vous êtes spécialisé dans l'aide aux jeunes mineurs qui ont des problèmes,
ouais.
Et votre fille en a été victime. Fait qu'il y a quelque chose dans cette situation-là, qui devait être hyper frustrante pour vous, vous êtes-vous senti coupable à un moment donné? Parce qu'on se sent coupable comme parent d'à peu près tout, là.
Ça a ouais, pas mais ça, c'est les touches au dit, moi et ma femme. On
le contrôlait pas.
La culpabilité, ouais. On n'en a pas vraiment vécu. Parce qu'on n'a jamais jugé Kim. On a toujours, on l'a toujours accompagné. Et on a visité des maisons de thérapie, là. On a visité des maisons d'hébergement. On a visité, écoute, des lieux inappropriés pour l'aider, pour la sortir, pour l'accompagner à faire d'autres choses dans sa vie, là, tu sais. Puis elle était sur le bord, là, de s'en sortir. C'est ça un peu que j'ai témoigné à la commission. Tu sais, c'est la réalité d'un parent dans une situation de détresse. Puis il cogne à des portes, puis... Ils n'ont pas les ressources nécessaires pour aider
leur
Kim.
Ouais.
Puis en même temps aussi, c'est à base volontaire tout le temps. Tu sais, on a même demandé un P38 de la faire arrêter pour la faire évaluer en psychiatrie. On l'a fait arrêter, le juge nous a donné un P38. On a téléphoné la police, on l'a fait évaluer 48 heures, mais après ça, elle est sortie après son évaluation.
Puis on conclut quoi?
Ben, ils ont conclu qu'elle n'était pas en danger pour elle-même puis pour les autres. Puis là, ben, c'est...
Fait que vous avez essayé à peu près tout ce qui était possible.
Oui, vraiment. Puis,
mais alors, Richard, c'est quoi la solution?
La prévention. Je le dis, c'est long. C'est long, la prévention, dans le sens de voir, d'avoir les résultats.
C'est mais pas... la prévention, c'est quoi? C'est de dire, prends pas de dope, parle pas des mauvaises personnes. On le dit à nos enfants.
Non, moi, je pense que c'est pas de pas d'en prendre. C'est juste de sensibiliser.
Mais elle l'était, votre fille, non?
Oui, mais...
Elle vous entendait parler des cas à la maison, j'imagine, au souper, vous deviez parler un peu de ce que vous voyez chez les jeunes, ça ne l'a pas empêché?
L'estime de soi, là, ça se travaille très, très tôt. Très tôt. Il faut travailler ça le plus tôt possible pour avoir les outils pour ces jeunes femmes-là de s'en sortir le plus rapidement possible, pour être capable de dire non, pour être capable de dénoncer son agresseur, pour aller voir aussi les bons organismes qui vont être capables de les amener à les accompagner dans leur démarche.
Qu'est-ce que vous attendez de la commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs?
Ben moi, je pense
que c'était qu'une chose.
Ouais, mais il va y avoir beaucoup de développement. Moi, j'ai confiance. Monsieur Lafrenière, c'est quelqu'un de... Il connaît son affaire. Là.
Puis, c'est une ancienne police.
Puis,
il a l'air très touché par ça.
Il est très impliqué. Puis je vous le dis, là, il est dans le comté de Vachon. Là, il est à côté de la maison quelque part avec Lionel Carman. Puis les deux ensemble travaillent ensemble pour aider les organismes
du
milieu.
C'est pas le crime organisé, mais c'est quasiment pareil. C'est des proxénètes, vous le disiez tout à l'heure. C'est les parents, le père faisait ça avant, le frère. Là, c'est un milieu, c'est un milieu toxique, mais qui se nourrit puis qui se reproduit. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? Puis il y a les clients. Moi, quand j'entends dire qu'il y a des hommes à Montréal qui demandent des jeunes autochtones de 14 ans habillés en Pocahontas qui commandent comme une pizza parce que eux autres, c'est ça qui les excite, les petites indiennes. Ouais. Je me dis, voyons donc.
Ouais.
Comment on va arrêter ça?
Mais moi, j'ai trouvé intéressant l'initiative de Fadi Daguerre, le directeur de police de Longueuil, qui veut mettre en place un programme pour les abuseurs, tu sais, les clients. Que c'est d'un de les arrêter, puis après, sont obligés de suivre une formation, puis de donner un montant d'argent. Mais c'est une première démarche. Il n'y a rien d'autre présentement. Fait que là, puis c'est sûr, amener et accompagner
ils
la victime.
Ils doivent rire de ça. Pardon? Moi, je suis un pimp, là. Puis tu me dis, gars, je t'arrête, là. Puis là, il va falloir que tu ailles suivre une formation. Puis tu vas me donner un peu de ton argent, là, pour comme punition.
Non, mais pas le pimp. Le client.
Ouais.
Qui profite des jeunes filles.
Client, même affaire.
Ben,
dès qu'il va. Il va aller faire ce qu'il a à faire, puis après, il va retomber dans ses vieilles habitudes.
Il faut commencer par quelque part. On n'a pas le choix. Il faut travailler en prévention, en intervention, puis en répression. Puis il faut travailler tout le monde ensemble, puis à échanger de l'information, à divulguer de l'information, à signer certains protocoles d'entente pour protéger notre monde.
Richard, qu'est-ce que vous dites à un parent aujourd'hui qui voit sa jeune fille de 12, 14? Qui déjà a l'impression qu'il n'est plus capable de la contrôler. Elle fait ce qu'elle veut. Elle dit, hey, c'est pas vrai que tu vas me dire quoi faire.
Garder espoir. On a tout le temps gardé espoir. Puis de ne jamais la juger. Il ne faut pas la juger. Puis faut rester les yeux et les oreilles très, très ouverts. Très ouverts. Parce qu'il y a des petits signes là, qui est facile. On est tous occupés là, d'une journée.
C'est quoi les signes?
L'habillement, par exemple, les bijoux, la coiffure, le maquillage, tu sais, puis les fréquentations. Puis aujourd'hui, les écoles travaillent plus avec le milieu et avec le parent. C'est évident que les écoles sont plus rapides pour intervenir, dire, mais votre fille n'est pas à école aujourd'hui. Si elle n'est pas à école, elle est où? Puis là, les jeunes, on a un nouveau programme, disons, de jeunes décrocheurs, qu'à place de les envoyer chez eux, les envoyer au métro, puis
qui niaisent,
puis qui fréquentent du mauvais monde, ils les envoient quelque part.
Mm-hmm. Chez vous, à Longueuil.
Exactement, ouais. À Longueuil, pour la commission scolaire Marie-Victorin, ouais. et des Patriotes aussi. Puis on fait des... on travaille avec des programmes de réinsertion, mmh. des programmes de réalisation personnelle.
Mais là, je sais pas. Je sais que ça doit vous aider à tourner... Enfin, j'allais utiliser une mauvaise...
Non,
c'est ça. Dire tourner la page, mais d'une certaine façon, faut arriver à vivre avec.
C'est des étapes. Ouais. Hein. C'est son anniversaire, premier Noël... c'est des étapes. Mm. Puis il faut passer ces étapes-là.
Merci, Richard. Vous êtes très courageux d'en parler aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Moi, ça me touche beaucoup, ce genre d'histoire. C'est épouvantable. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va parler de cette autre histoire qui nous fait rager ce matin. Un gars qui tue sa femme. Okay? Un crime sordide. Marteau, après ça, comme s'il ne l'avait pas assez achevé, à deux mains avec un poignard. Il va en prison, condamné 15 ans. Pourquoi pas 25? 15, parce que c'est un homicide involontaire. 15 ans, il sort au bout de 12. Fouille-moi pourquoi, on ne sait pas. Il sort pour assouvir ses besoins sexuels avec l'accord de la commission de libération conditionnelle. Et là, ben, ces jours-ci, il vient d'être trouvé, on vient de l'accuser d'un autre crime, d'une autre jeune femme, dans un hôtel de Québec. Alors là, on va se demander comment ça se fait qu'une fois de plus, le système n'a pas l'air de comprendre l'évidence. Et il y en a un qui est vraiment fâché de ça, c'est Pierre-Hugues Boisvenu, parce que c'est l'histoire de sa fille, Julie, qui se répète. À tout de suite, tout le monde.